Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas...
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. François Place, auteur et dessinateur, était l'invité d'honneur de la manifestation Passage 2013. Une exposition lui était consacrée et de nombreux contes ont été lus au Théâtre du Quai à Angers à cette occasion. Nous avons découvert l'univers onirique de cet artiste qui s'apparente à celui des contes orientaux et peut s'adresser à tout public. C'est pourquoi nous avons choisi de vous lire Le Pays de Jade. Ce conte fait partie de l'un des trois tomes de l'Atlas des géographes d'Orbahé. Un atlas imaginaire construit sur le principe de l'alphabet. Ici, il s'agit de la lettre J.
Ce matin-là, l'empereur sortit du pavillon du bienheureux sommeil et marcha sur l'herbe fraîche en se gorgeant des premiers rayons du soleil. Il fit jouer ses petits doigts boudinés sur l'herbe fraîche en inspirant profondément, les narines dilatées, les paupières closes. Un voile sombre glissa sur son auguste face en même temps que des nuées obscurcissaient les sommets des monts de Jade. Une goutte de pluie, froide et lourde, vint choir sur son front d'ivoire poli. Elle glissa avec une exaspérante lenteur le long de son sourcil gauche, contracté par une intense contrariété intérieure. Il frappa trois fois dans ses mains. Un eunuque tomba à ses pieds, l'écritoire sur les genoux, le papier déplié et le pinceau gorgé d'encre, suspendu aux lèvres de l'empereur. Un cavalier se posta à trois pas, son coursier piaffant d'impatience. Un dignitaire de la cour s'inclina jusqu'au sol, le sceau des subtiles et promptes décisions dans la main droite. Les trois hommes avaient la gorge nouée d'angoisse et les mains moites.
Ainsi, le ciel a décidé une fois de plus de troubler mon séjour. Et une fois de plus, ces deux moucherons d'astrologues sans cervelle ont été incapables de le prévoir. Ils méritent une bonne leçon. Qu'on leur passe un carcan au cou et que l'on aille quérir ce jeune astrologue de la cour qui paraisse dans les palais de ma capitale. Qu'il se présente devant nous pour la cinquième veille. J'ai dit.
Déjà, le pinceau avait tracé l'ordre, le sceau écrasé la cire sur le papier replié et le coursier emporté la dépêche. L'empereur de Jade tourna les talons et la pluie s'abattit sur les pavillons de soie. À l'heure dite, Han Tao, le jeune astrologue, se présenta devant l'empereur de Jade, la face écrasée entre ses deux mains aplaties au sol. Il n'osait pas regarder Zhu Tong et Du Qian, les deux autres astrologues, ses anciens maîtres, autrefois si arrogants et qui maintenant roulaient de pauvres yeux sous leur front ridé, engoncés dans des carcans de 30 livres. Le ministre des Augustes Paroles s'adressa d'abord à eux.
Zhu Tong et Du Qian, c'est avec une impudeur sans pareille que vous avez accepté d'être élevé au rang de dignitaire de la cour. Vous qui devriez, la face rouge et le cœur tremblant, rentrer sous terre pour y cuire de honte avec tout votre lignage jusqu'à la 100e génération. Il ne s'est pas écoulé une lune que l'orage s'est déjà abattu par 3 fois et que la pluie est venue par 3 fois troubler le sérénissime séjour du pavillon impérial. Un canard nouveau-né en sait plus que vous sur les desseins du soleil et de la pluie.
Puis il se tourna vers le jeune astrologue.
Antao, tu as 8 jours pour découvrir pourquoi ces 2 singes ridicules dans leur collier de bois n'ont pas su prévenir les averses qui ont noyé leur réputation de chercheurs de soleil. Si tu réussis, tu seras nommé premier astrologue de la cour. Tu auras la charge et la bannière des chercheurs du soleil et tu décideras chaque jour du meilleur emplacement pour établir le camp d'été. En t'attendant, Zutong et Dukian recevront chacun et chaque jour 10 coups de bâton. Et si tu échoues, vos 3 têtes iront orner la niche de la honte. Voici tes sauf-conduits et ton ordre de mission. Que ton enquête soit juste et diligente.
Han Tao regarda Zutong et Dukian, auprès de qui il avait appris les rudiments de la science des astres et des nuées. Il s'aplatit pour saluer et sortit à reculons, comme la tortue devant les moustaches du tigre. Puis, il alla trouver Jiao Ting, un domestique qui avait fait toute sa carrière auprès de ses 2 anciens maîtres.
« Jiao Ting, je te prie de bien vouloir m'assister dans ma quête. Du succès de mon entreprise dépend la vie de tes vénérés maîtres. »
Jiao Ting accepta. Ils scellèrent leurs montures et s'éloignèrent au petit trot. Ils couvrirent ainsi 10 lits sans un mot. Au-dessus de leur tête se découpaient les sommets fantasques des monts de jade habillés d'écharpes de brume. Han Tao songea que sa carrière, autrefois si prometteuse, avait désormais la solidité d'un château de nuages. Lui, l'étudiant prodige de l'Académie de la forêt des pinceaux, ne pesait pas plus dans la main de l'empereur qu'une feuille dans la paume du dieu des vents. Et pourtant, il était sûr de découvrir l'étrange raison pour laquelle ses 2 maîtres ne parvenaient plus à prédire le temps. Telles étaient les pensées qu'il agitait, tandis qu'en compagnie de Jiao Ting, il cheminait vers son destin. Ils dressèrent leur bivouac dans les premières ombres du crépuscule.
Jiao Ting.
Oui, maître vénéré.
Comment se fait-il que nos maîtres, les 2 soi-disant meilleurs astrologues de la cour de jade, aient à ce point failli dans leur honorable ministère? Le temps est-il devenu si imprévisible qu'on ne puisse plus en pénétrer les desseins? Ou bien sont-ils fatigués de la vie et des honneurs pour avoir aussi légèrement couru à leur perte?
Mon jeune maître Han Tao est resté au palais de la capitale ces dernières semaines. C'est pourquoi les événements ne sont pas parvenus jusqu'aux portes de son entendement. Les vénérables Zutong et Dukian ne sont pas responsables des écharpes de pluie qui se sont déchirées au-dessus de l'impérial camp d'été. Ce sont les oiseaux-soleil qui agissent comme des hirondelles prises d'ivresse. Ils n'indiquent plus, comme autrefois, les vals ensoleillés avec la sûreté d'une flèche tendue vers sa cible, mais tracent dans l'azur d'incompréhensibles chemins.
Eh bien, c'est qu'ils sont malades ou négligés de vos soins.
Jiao Ting eut un petit hoquet d'indignation. Il souleva délicatement le pan de soie de la housse qui masquait la cage d'un oiseau-soleil. Han Tao s'approcha. Le noble volatile s'ébouriffa, courroucé que l'on ait ainsi troublé son repos. C'était un magnifique animal, plein de feu et d'ardeur, un vrai petit dragon à l'œil noir et d'une vigueur insolente. Han Tao eut un petit rire.
« Jiao Ting, je te présente mes excuses. Cet oiseau-soleil est en tout point digne de la cour de jade. Dormons. Demain, nous irons interroger les moines tourbillonnants de la forêt des pins rouges. »
Jiao Ting s'inclina et prépara leur couche. La nuit glissa sur leurs paupières comme la brume sur les roseaux au bord de l'eau.
« Avec elle, glissons jusqu'au lendemain et retrouvons-nous sous les ombres dorées de la forêt des pins rouges. »
Thank you.
Le sol sablonneux s'enfonçait sous les sabots de leurs montures et serpentait entre des îlots rocheux, certains hauts comme des falaises et couronnés de pins centenaires. Chao Ting ne comprenait rien au dessin de Han Tao.
« Aujourd'hui, mes deux vénérés maîtres se sont vus gratifiés de 10 coups de bâton et celui-ci va au petit bonheur comme s'il disposait de tout le temps devant lui. Quelle ingratitude !»
Il en était là de ses pensées lorsqu'un hurlement résonna 15 pieds au-dessus de lui, suivi d'un autre sur sa gauche et d'un troisième droit devant. La forêt s'emplit d'un froissement de soie et des boules de feu jaillirent de tous côtés en produisant d'affreux ululements. Il faillit choir de sa monture cabrée de frayeur, mais avant qu'il n'ait eu le temps de se ressaisir, une deuxième vague de clameurs se fit entendre. Cette fois, il distingua des hommes au milieu des tourbillons. Ils dégringolaient de la montagne tête la première, tournaient sur eux-mêmes dans les airs, rebondissaient de rocher en rocher sans cesser de crier, exécutaient 1000 tours prodigieux avant d'atterrir, de ci, de là, leur longue robe de soie retombant majestueusement autour d'eux.
« Eh bien, Zhao Ting, que t'en semble ?»
Les moines tourbillonnants les entouraient, maintenant silencieux, immobiles comme des statues, leur crâne poli luisant dans le sous-bois.
Que mon maître me pardonne. Je n'ai plus de cervelle que l'oiselet sorti de l'œuf.
C'est pourtant clair, Zhao Ting. Les arabesques que les moines ont tracées de leurs tourbillons dans les airs indiquent que nous devons marcher 20 lis vers le soleil couchant après le défilé des sables blancs et...
Et ensuite, mon maître ?
Han Tao rougit un peu.
Je n'ai pu déchiffrer qu'une partie du message. Malheureusement, les membres de la secte des boules de feu écrivent dans le ciel beaucoup plus vite que ceux de la secte des boules de neige.
Il mit pied à terre, tira de ses fontes un lingot d'argent et, s'inclinant respectueusement devant le moine supérieur, le lui offrit sur une écharpe de brocart. Le moine empocha l'offrande, fit un signe et tous disparurent dans un grand bruissement d'étoffe. Chao Ting et Han Tao dormirent cette nuit-là au défilé des sables blancs.
Retrouvons-les le jour suivant, au gué de la rivière des 10 bambous, une 20aine de lys plus loin, leurs coursiers attachés à un taillis de saule gris.
Han Tao, assis sur la berge, lançait des cailloux dans l'eau, l'air songeur.
« Maître, le repas est prêt !»
Tout en disposant les gamelles, Chao Ting observait du coin de l'œil le dos impassible de son jeune maître. Une énigme habillée de soie.
« Maître, ne devriez-vous pas songer à vous restaurer? Nous avons fait une longue route. »
Han Tao ne bougea pas d'un pouce. Il suivait des yeux l'onde glissant entre les roseaux. Une barque vint à passer, manœuvrée par 2 enfants rieurs. Le premier montra son derrière, le second tira la langue en faisant des grimaces. Chao Ting bondit sur ses pieds, prêt à corriger d'importance les 2 schnappants, mais Han Tao l'arrêta d'un geste.
« Laisse donc ces gamins, Chao Ting. Allons plutôt de ce pas au col des 5 grimaces. En route !»
Des 5 grimaces étaient un endroit redouté. On ne s'y rendait que par un étroit sentier grimpant à flanc de montagne. Les eaux ruisselantes le rendaient aussi glissant que le dos d'une truite. Le moindre faux pas, et c'était la chute dans des ravins vertigineux. À peine avait-il atteint le sommet, qu'ils furent assaillis par une bande de singes pillards, plus redoutables que les célèbres 108 bandits des marais du bord de l'eau. Han Tao ordonna à Chao Ting de leur laisser la moitié des provisions et 2 pierres à ancre avec lesquelles ces bêtes stupides avaient coutume de se tracer d'affreux dessins sur le derrière. Mais le roi des singes n'était pas satisfait. Il en voulait davantage, grinçait des dents, se frappait la poitrine, tout en arpentant le glacis entre les 2 hommes et sa horde de bipèdes vociférants. Déjà, Chao Ting s'emparait de son arc et glissait une flèche à la pointe jaunie de venin de vipère. mais Hanta la lui fit remettre dans son carquois. Le jeune astrologue glissa la main dans l'échancrure de son manteau et tendit avec toutes les civilités d'usage le sauf-conduit délivré par l'empereur. Le roi des singes cessa aussitôt de clabauder et ordonna le silence. Il prit le parchemin, le tourna, le retourna, le renifla en se grattant l'occiput, le nez sur les idéogrammes. Puis il prit un air d'importance, bomba le torse et fit signe que tout était en règle, consterné de voir deux si belles proies lui échapper. Les deux voyageurs passèrent la nuit sur l'autre versant du col des cinq grimaces.
Laissons-les se reposer de leurs émotions montagnardes, tandis que leurs anciens maîtres, au fond de leur geôle, s'agitent dans un sommeil douloureux et que l'aurore aux doigts de rose nous guide jusqu'au matin suivant.
Hantao fit sa toilette sous une cascade de d'eau glacée devant les yeux arrondis de Chao Ting, qui, de sa vie, n'avait pris un seul bain. Il s'habilla sans hâte, grignota de bonne humeur une galette de riz et vint s'asseoir au bord de la mer de nuages.
« Et maintenant, que faisons-nous, ô mon maître ?»«
On attend, mon bon Chao Ting, on attend !»
Et toute la matinée, Hantao resta immobile face au vide. Un à un, les pitons rocheux sortirent de la brume, comme de lents vaisseaux émergeant du brouillard. L'œil exercé de Hantao repéra une minuscule tache blanche de l'autre côté du précipice.
« Allons, Chao Ting, remue-toi, en route, en route ! Cesse de bâiller aux corneilles !»
Et il lui botta le train sans écouter ses protestations indignées. Ils manquèrent bien se rompre le cou une dizaine de fois avant de rejoindre l'inconnu. C'était un vieillard à barbe blanche, à qui des yeux clignotants donnaient un air égaré. Il venait de peindre, sur un rouleau, le paysage avec un personnage portant un sac et une arme insolite. Hantao s'inclina respectueusement, trois fois, mais ne put tirer un mot du vieillard.
« Sapristi ! Le bougre serait-il muet ?»
Finalement, le vieux daigna s'inquiéter de leur présence, il papillota des paupières et bredouilla entre ses lèvres bordées de longs poils blancs. Bzzz.
Évidemment ! Soyez béni mille fois, vénérable vieillard, et puissiez-vous posséder, dans votre infinie sagesse, l'unique trait de pinceau du moine citrouille amère.
Nos deux compères poursuivirent leur route.
« Maître, que cherchons-nous à présent ?»«
Voyons, Chao Ting, ne me dis pas que tu n'as pas entendu. C'est pourtant clair, il me semble. Psst.
Que mon jeune maître me pardonne, je ne vois toujours pas. »«
Les abeilles, Chao Ting, les abeilles !»
C'en était trop pour le pauvre serviteur qui se mit à gémir comme une vieille femme.
« Eh bien, qu'y a-t-il encore ?»«
Je songe à mes deux pauvres maîtres, prisonniers de leur carcan de bois, et qui ont à ce jour reçu 30 coups de bâton, pendant que vous battez la campagne en courant après des lubies, des grimaces et maintenant des abeilles.
Ah, cesse de pleurnicher, stupide animal! Nous n'en serions pas là s'ils s'étaient davantage inquiétés de leurs propres errances. Ils sont confis dans leur petit savoir comme dans du miel, et ne t'inquiète donc pas temps pour leur dos. Ils ont assez longtemps ployé les chines pour avoir le dos souple. Et quelques coups pour les redresser ne seront pas inutiles. Allons, marche.
Ce Han Tao n'est qu'un incapable, un vaurien, un ingrat plein de morgue, un sans-cœur. Cette nuit, je lui fausserai compagnie.
Laissons le bruissement des feuilles bercer leur sommeil sous la lune blanche et attendons qu'elle se couvre des premières gouttes de rosée.
Han Tao s'étira, bâilla et sauta sur ses pieds en se frottant les mains.
Zhao Ting, j'ai faim. Zhao Ting, Zhao Ting.
Ses appels furent sans réponse, comme vous le devinez.
Où diable est-il passé? Voilà ses empreintes. Quel imbécile! Le mauvais poète n'est pas plus fier des pattes de mouche de sa calligraphie que cet âne sans cervelle des lourdes traces qu'il imprime dans le sol. Suivons-les.
Il bondit en selle et s'élança sur la piste du fuyard. Dans le sous-bois tacheté de soleil, lièvres et renards regardaient galoper le dignitaire fulminant de rage comme le tigre aux moustaches hérissées à la poursuite de la biche effarouchée. Il galopa plus de 5 lis sans ralentir ni laisser sa colère par-devers lui jusqu'à ce qu'une sorte de glapissement aigu le fasse freiner des 4 fers.
« Maître, au secours, maître !»
Han Tao se raidit sur ses étriers et tendit l'oreille.
« Où es-tu, bougre d'animal ?»«
Ici, mon maître !»
Han Tao avisa un fossé en contrebas de la piste. Il mit pied à terre et descendit en s'accrochant au bambou. Chao Ting était le cul dans le ruisseau, méconnaissable, mains et figure enflées et couvertes de cloques, si dépité que son maître éclata de rire en se frappant les cuisses.
« Félicitations, Zhao Ting, tu as trouvé ce que nous cherchions. »
Il s'approcha de lui et saisit entre le pouce et l'index une abeille morte restée sur le cou du serviteur. Il la porta à ses yeux, la fit tourner à la lumière.
« Une abeille royale, très intéressant. Allons, debout, Han Bate, où as-tu rencontré cette adorable petite bête ?»«
Là-bas, plus haut sur le ruisseau. » Je passais à guet lorsque ces furies m'ont sauvagement attaqué.
Et ta monture?
Elle s'est sauvée avec les bagages et la cage de l'oiseau.
Han Tao le menaça du doigt.
Je te préviens, Zhao Ting. Si l'oiseau soleil est perdu, tu m'en répondras sur ta vie.
Par chance pour Zhao Ting, le coursier broutait à 20 coudées de l'accident, son paquetage éparpillé dans l'herbe. La cage était intacte et l'oiseau sans dommage.
N'oublie pas que tu m'as fait sauter le repas du matin, Zhao Ting. « J'ai une faim de tigre. C'est le moment de te racheter. Que dirais-tu d'un bon poulet ?»«
Mon maître plaisante. Il ne reste que des galettes de riz et quelques fruits secs. »«
Eh bien, fais-moi rôtir ce volatile. Et tiens, pendant que tu y es, prépare-le avec des pousses de bambou.
Moi, je vais faire une petite sieste. »«
Manger un oiseau soleil? Mon maître n'y songe pas. » Connaît-il seulement le prix et la valeur de...
Il suffit, Zhao Ting. C'est moi qui mène l'enquête et j'ai faim. Tu me réveilleras quand le repas sera prêt.
Zhao Ting s'exécuta en pleurnichant et en maudissant ce maître hors de toute raison. Il versa des flots de larmes en plumant le bel animal et le servit tout rôti entre 2 sanglots.
Délicieux, Zhao Ting, mes compliments. Je crois que j'ai sous-estimé tes talents de cuisinier. Tiens, goûte, tu devrais en prendre aussi.
À contre-cœur, le pauvre serviteur mordit dans un pilon salé par les larmes qui coulaient de sa joue boursouflée.
Bien, Zhao Ting, en route, je dois rendre visite à un vieil ami. Notre enquête touche à sa fin.
Ils sortirent de la forêt, traversèrent des champs de sorgho, d'autres de lin bleu, jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la montagne. ils firent leur camp dans un bosquet de bouleaux argentés et tombèrent dans un sommeil de pierre.
Sans un bruit, attendons leur réveil et ayons une pensée compatissante pour leurs deux maîtres au dos meurtri par 40 coups de bâton.
Hantao mit ce matin-là un soin tout particulier à se vêtir. Il observa le ciel radieux et donna le signal du départ. Ils prirent par le sentier de la tresse coupée et parvinrent à un gros rocher rond surmonté d'un château. Hantao fit retomber trois fois le heurtoir de bronze et la lourde porte tourna sur ses gonds. Il demanda à voir Huangxi, le vieil apiculteur qui veillait sur les ruches sacrées, et que l'on appelait ici l'empereur des abeilles.
Hélas, notre maître est parti pour les demeures célestes.
Pour la première fois, Hantao perdit un instant contenance, mordu par le chagrin. Mais il se ressaisit vivement.
Qui le remplace ?
Notre maître était la perfection des perfections. Aucun d'entre nous ne s'est jugé digne de le remplacer.
Comment se fait-il que l'on puisse trouver des essaims d'abeilles royales ensauvagées à plus de 50 lis d'ici ?
Seul notre maître savait le langage des fleurs et le secret des abeilles. Il sentait venir le printemps avant l'ours et le loir. C'était un infatigable marcheur qui connaissait le moindre vallon perdu. Il parlait aux reines des abeilles et les emmenait où leurs désirs les portaient. Nous sommes sans lui comme des enfants sans leur père bien-aimé.
Que vous pleuriez la mémoire de Huangxi, cela est bien. Que vous abandonniez les ruches qu'il a placées sous votre sauvegarde, cela est moins bien. Mais que vous empêchiez les astrologues de la cour de remplir leur ministère, cela est très grave. Votre miel est infâme. Il gâte les os du soleil. J'ai pu le vérifier pas plus tard qu'hier en goûtant à l'un d'eux. Vous le savez bien. Les oiseaux-soleil ne sont nourris que de gâteaux du miel le plus délectable. C'est leur nourriture et récompense. Quand on les lâche à la poursuite du soleil, ils filent dans l'azur et se posent aux endroits que les rayons de l'astre sacré viendront illuminer à coup sûr. Et c'est ainsi que nous déterminons les emplacements du camp d'été. Alors, seulement, nous les régalons de ces gorgées de soleil que nous leur offrons pour les récompenser. Mais vous les avez dégoûtés de cette nourriture. Ils divaguent sans grâce, comme de grosses poules faisanes ivres d'avoir trop picoré le raisin, et ils se posent n'importe où. Et la pluie tombe là où leur esprit déréglé les emmène. Vermisseau que vous êtes, l'empereur de Jade vous fera cuire à petit feu dans votre miel infect.
C'est alors qu'un petit garçon s'avança, portant timidement un pot de miel à la main. Il s'inclina devant Hantao.
Goûtez, notre maître vénéré, j'ai fait ce miel en souvenir de Wang Yi, mon grand-père très aimé.
Hantao se calma aussitôt. Il plongea le doigt dans le liquide doré et le lécha avec recueillement.
Oh, prodigieux! C'est vraiment ton miel?
J'ai appris auprès de mon grand-père très aimé.
Mais je te reconnais, toi. Tu ne m'aurais pas fait la grimace au gué des 10 bambous. Quel est ton nom?
On m'appelle Li Yun.
Ah, Li Yun, tu as plus d'esprit que toute cette bande de pucerons englués. Je te nomme commissaire aux ruches sacrées. Tu décideras seul de leur déplacement et tu veilleras sur les essaims. Un coursier viendra prendre chaque semaine des échantillons de la récolte et tous ici te devront obéissance comme à feu ton grand-père.
Hantao et Xiao Ting passèrent la nuit au château.
Laissons-les dormir sur leur couche dorée et transportons-nous en silence au jour suivant, à une vingtaine de lis, sur le chemin du retour.
Vois-tu, Zhao Ting, notre pays est versatile et nous avons besoin de certitude. Le jeu du soleil et de la pluie est un jeu délicat, subtil et bien difficile à deviner. Il ne suffit pas de donner tous ses soins aux oiseaux soleil et de les suivre en quête d'une vallée que la pluie épargnera. Rien ne sert de les dresser pendant de longues années si les gâteaux de soleil qu'on leur offre ne sont pas dignes de leur noble tâche. Le miel lui-même est un aliment céleste, une pure gorgée de soleil et de rosée. Le trône de l'empereur de Jade vacille quand celui de l'empereur des abeilles est vacant.
Ils cheminèrent nuit et jour pour épargner de nouveaux tourments aux pauvres Tsu Tang et Du Qian. Le huitième jour après leur départ, ils arrivèrent par une matinée radieuse en vue du camp de l'empereur de Jade. Tsu Tiong et Du Qian, comme il était prévu, furent délivrés de leur lourd collier de bois et Han Tao devint premier astrologue de la cour. Chaque année, il choisirait avec succès les futurs emplacements du camp d'été. Cependant, il craindrait toujours les caprices de l'empereur, plus imprévisibles que les nuages et beaucoup plus redoutables que la piqûre des abeilles.
Nous espérons que vous avez partagé avec plaisir notre séjour au pays de Jade. Cet atlas dont ce conte est issu est prolongé en 2010 par Le Secret d'Orbaé. Il a reçu depuis le Grand Prix de la Foire de Bologne pour l'Atlas des géographes d'Orbaé, ainsi qu'un prix sorcière spécial pour récompenser son œuvre, prix décerné par des librairies spécialisées jeunesse et l'Association des bibliothécaires de France. Cette poésie se traduit dans des dessins d'une extrême précision documentaire et d'une grande délicatesse d'évocation. Et nous vous invitons vivement à consulter les albums de cet auteur et dessinateur auxquels nous avons aujourd'hui prêté nos voix. Cette émission a été préparée et lue par Annie, Anne, Marie et Philippe. La musique qui accompagnait ces textes provient d'un album intitulé Masters of Zen. Nous remercions Vincent pour le montage de cette émission. À bientôt!
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez